vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes à la librairie Somnambule et nous sommes avec Lucas Fox. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Pauline qui va poser toutes ces questions.
Salut Xavier, merci de ton temps. Salut Lucas. Il me semble t'avoir croisé hier, non? C'était pas toi?
Bah oui, un peu beaucoup et pas assez.
Une belle soirée hier au Buck Mulligan, vous en gardez quoi comme souvenir?
Pas une belle, une magnifique soirée, vraiment très touchant, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, avec des pas seulement des fans, mais des personnes de tous bords qui venaient pas seulement pour Motorhead, pour le reste aussi, parce que quelque part c'est Swinging London, c'est toute la période, c'est ce qu'on m'a dit apparemment, c'est un des seuls bouquins où on se sent vraiment dedans, c'est une immersion totale, donc... Et mon enfance, et Londres des années 50, 60, 70, l'explosion en couleurs de créativité qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. La photo, la mode, bien sûr, avec Mary Quant, etc., Biba, la photo, David Bailey, après Motorhead, les punks, Vivian Westwood, et tous traînés dans les mêmes quartiers, Notting Hill, tout ça, pas seulement Chelsea. Et donc c'est vraiment plongé là-dedans. Et donc hier il y avait beaucoup de personnes très émues. Ça arrive. Et en général au début, j'ai l'habitude. Donc quand j'ai travaillé avec Ray Charles, il me disait Lucas, WYSIWYG. J'ai dit What's WYSIWYG, Ray? WYSIWYG. What you see is what you get. Ce que tu vois est ce que tu as. Et moi, c'est ça. Donc, c'est très simple. Bon, on fait caca pipi. Je suis un humain comme tout le monde. Mais après ça, je brise pas la magie non plus.
So, let's go. Est-ce que je te pose des questions, Lucas? C'est bon? Ah, ok. Alors, ma première question. Quand tu as quitté Motorhead, il n'y avait plus Lemmy dans ton quotidien. Il n'y avait plus l'odeur de Santiago qui pue. Plus de Jack Daniels non plus. Qu'est-ce que tu as découvert par la suite qui t'a fait autant plaisir qu'un concert qui décolle vraiment le papier peint?
Moi, je commencerai à répondre à cette question de juste après Lemmy. Je suis amphétomane, donc je suis un junkie des amphétamines que je prenais avec Lemmy pendant 18 mois, qu'on était ensemble, toutes les nuits blanches qu'on a fait ensemble, et donc c'est ma chute. Donc c'est vraiment la descente aux enfers, où je pouvais voir personne, j'étais complètement parano, je pouvais même pas aller au supermarché, faire des courses, rien. Donc je me suis refermé, quelqu'un m'a prêté un appartement, donc j'étais seul pendant quelques mois, et j'ai pu vraiment toucher le fond et remonter. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on se rend compte que c'est un peu le vieux adage, un peu à la con, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais il y a aussi cette sensibilité qu'on retrouve, parce que si on remonte trop, si on se construit une forteresse, on se retrouve dans une prison. Donc je voulais absolument pas faire ça. Et donc je voulais recommencer à créer. Mais ça a pris du temps. Et donc, j'ai commencé à livrer des fleurs parce qu'il fallait que je m'en sorte, physiquement et aussi financièrement. Et donc, j'étais embauché sur un livreur de fleurs au centre de Londres, super huppé. Et donc, j'avais mon petit van et donc je partais à 7h du matin. Et tout le reste, les autres conducteurs qui étaient vachement futés arrivaient vers 16h30 et moi j'arrivais vers 21h. Donc j'étais en retard sur toute la liste, mais ce qui est génial avec les fleurs, c'est que tout le monde est toujours ravi de te voir. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et je suis tombé sur des personnes exceptionnelles qui m'ont vraiment sauvé la vie. Et donc quelque part c'était ça, cette profondeur de pouvoir finalement trouver beaucoup d'empathie pour les autres. Et aussi tous mes handicaps à moi, et donc je suis très sensible aux autres. Donc si je peux dire ainsi, c'est quelque part c'est ça, c'est cette force d'empathie et de sensibilité envers les autres. Et jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour rester sensible.
Et dites-le avec des fleurs.
Right, say it with flowers, exactement, voilà.
Ok Lucas, tu as traversé un monde musical et humain complètement dingue, tu viens de le dire. Dans ta vie d'après, est-ce qu'il y a une rencontre ou une aventure qui t'a réellement marqué, où tu t'es dit « Waouh, ma vie elle est encore plus rock qu'avant Motorhead », enfin, que pendant Motorhead?
Oui, absolument. C'est années 77 où tout d'un coup on me demande de faire membre d'un groupe qui s'appelle Warsaw Pact. Et Warsaw Pact, c'était un groupe du quartier à Notting Hill où on y était tous, qui étaient des Rockettes avant, un vache de groupe. Et en plus, le guitariste, lead guitar créateur, etc. du groupe, et on est devenu que chemise. Ils ont viré leur batteur, il commençait à déconner, donc je connais bien le truc. Donc quelque part, c'était son tour d'être sur le siège éjectable de batterie. Et mon tour de reprendre la batterie derrière. Après ça, moi et Andy, on a passé pour 6 semaines, tous les deux en studio, studio de répétition, dans le bunker. Le bunker, on partageait avec un autre groupe très célèbre qui s'appelle les Slits, qui était un groupe féminin, tout à fait féminin, magnifique, avec Albertini, Paul Molive et tout ça. Et donc, c'est la période punk, New Wave. Et ce groupe-là, donc moi et Andy, on a sculpté les morceaux, on a arrangé les morceaux. Quelque part, toute ma frustration de n'avoir pas pu faire ça en Motorhead, parce qu'on n'avait pas le temps, Motorhead, on nous a lancé en tournée tout de suite, parce que le manager peut-être avait de bonnes raisons, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça, et il voulait profiter du fait que tout le monde a parlé, du fait que Lemmy a été éjecté de Hawkwind, et donc il voulait lancer la machine tout de suite. Donc on a eu grosso modo 11 jours de répétition avec Motorhead, et dont 8 complètes. Parce qu'il y avait des interviews, il y avait une séance photo qui a pris une journée, etc. Et plus les deux autres qui racontaient des blagues tout le temps et n'aimaient pas répéter. Et tous les deux n'aimaient pas le studio non plus. Donc quelque part, j'ai retrouvé tous mes armes d'avant Motorhead dans Warsaw Pact, et aussi la complicité, mais comme j'ai eu avec Lemmy, mais encore plus parce qu'il y avait la complicité musicale et que ils voulaient vraiment de moi, ils avaient vraiment envie de quelqu'un comme moi dans le groupe. Et donc c'était un bonheur complet, et les concerts hallucinants, et l'album le plus rapide du monde qu'on a fait. On est entré en studio à 11h du soir, et à 16h de l'après-midi le lendemain, on était en train de signer les 5000 copies de l'album, qui n'existait absolument pas. C'était huissier à l'appui. À 11h, pile à 11h, on commençait à enregistrer l'album. Direct to disc, donc directement sur le lacquer, directement sur le disque, sans mix, sans rien. Donc c'était direct to disc. Et cet album est frais, mais frais. It's a very fresh album. Et j'adore cet album. Et donc, c'est là aussi où tout d'un coup, je me suis retrouvé en studio derrière l'ingé son à regarder exactement ce qu'il faisait, comme je disais, avoir la passion pour la production. Donc, quelque part, oui, c'est ça qui m'a rouvert l'appétit de reprendre la musique. Et en plus, les arrangements étaient complexes, avec des brisures de rythme, etc. Super rapide en plus. Et donc, avec des salles pleines, parce que Lemmy adorait ce groupe et il racolait dans tous les pubs autour dans le quartier pour remplir nos salles. Et Lemmy était là aussi. Et donc c'était drôle, quoi. Et donc, premier concert qu'il est venu, je rejoins au bar et il me dit « Putain, finalement tu l'as, tu es de nouveau en forme, je suis ravi, etc. » Donc c'était vraiment ma revanche quelque part sur ma chute qui était juste avant.
Bien sûr. Extraordinaire. Merci, Lucas. Alors moi, j'ai dévoré ton livre, hein. On le rappelle, Motorhead, In and Out. J'ai une petite question un peu piquante, parce que tu m'as dit que je pouvais te poser toutes les questions du monde.
Alors,
voilà. Il y a des passages dans le livre où tu es avec Lemmy, et puis vous allez chercher un peu des objets nazis, mais c'est de la provocation de l'époque, je pense aussi. On est après la Seconde Guerre, on est 20 ans plus tard, 25 ans plus tard. On se rappelle de Sid Vicious aussi, avec son t-shirt rouge et sa croix gammée. C'était vraiment l'époque punk et rock. Si tu devais refaire ce genre de provoque aujourd'hui, qu'est-ce que tu utiliserais?
J'ai beaucoup pensé à ta question dans le TGV hier, et j'ai pas vraiment de réponse. Par contre, je sais que je ne ferai pas la même à notre époque maintenant, parce qu'il y a trop de remontées d'extrême droite, etc., et trop de personnes qui s'accrochent à tout en premier degré.
Bien sûr.
Et Lemmy était tout sauf premier degré.
Oui.
Un grand intellectuel qui lisait tout le temps, il bouquinait tout le temps, et moi aussi. Et donc, un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais rencontré, déjà, qui n'est pas l'image que Lemmy a. Et donc il y a ça aussi qui, pour moi, transpire dans le livre. Donc, Le principe de Lemmy, il l'a appris avec Rocking Vickers, qui était le groupe, un de ses plus grands groupes de ses débuts. Et Rocking Vickers était outrageux. Bah, Rocking Vickers, vicaire, le vicaire comme le vicaire de Dieu, c'est donc avec le col de prêtre. Et donc ils avaient des cols de prêtre avec de longs cheveux. Ils avaient même érigé une croix sur le camion. Et quand ils sont allés en Irlande, ils ont insisté d'enlever la croix parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer en Irlande. Mais c'était la provoque à fond. Et c'était complètement loufoque sur scène. Et ils s'habillaient en finlandais.
Okay.
Avec des bottes en fourrure, un genre de tablier blanc avec des liserés bleus, enfin, et avec le col de vicaire, quoi. Et donc il a appris avec ça. Après ça, il était rodé pour Hendrix, c'est assez connu. Donc il a pu regarder Hendrix tous les soirs pour la tournée dans laquelle il était. D'ailleurs, j'étais au premier concert de cette tournée avec Pink Floyd, Nice, Amen Corner, tout un tas de groupes super célèbres maintenant, à l'époque, plus que maintenant. Et donc il a regardé Hendrix, qui était hors scène, un amour so sweet que tu peux pas imaginer. Mais sur scène, c'était un panthère, c'était un tigre, c'était un cobra. Mm-hmm. Et donc, apprendre à provoquer comme Hendrix le faisait sur scène, ouvertement sexuel, complètement sexuel. Et d'ailleurs, le dernier concert de cette tournée, je me souviens pas, c'était Glasgow, je me souviens plus. En tout cas, il faisait deux concerts par soir. Et ils n'ont pas pu faire le deuxième concert. D'ailleurs, le management a fermé les rideaux en mi-concert parce que c'était trop ouvertement sexuel. Donc, c'est une histoire que Lemmy a pris de ces deux groupes déjà, en disant, si ça offense les parents, si les parents sont outrés, on a une bonne chance de pouvoir percer. Ce qui vient juste après Motorhead, qui est le punk avec Vivian Westwood, Malcolm McLaren, qui ont repris pas mal des codes de Motorhead, inclut quelque part No Future, qui est la même chose que Born to Lose, Live to Win.
Exactement.
Donc, quelque part, c'est provoque. Alors, pour provoquer aujourd'hui, c'est compliqué parce que quelque part, tout a été fait, tous les injures ont été faits, Fox c'est devenu anodin. À l'époque, le mot bastard ne passait pas à la radio ni à la BBC, impossible. Donc c'était beaucoup plus facile de choquer à l'époque. Mais quand même, eventually, comme disait en Fawlty Towers, ce qu'il faut trouver, c'est une manière de choquer, je dirais... Si on change le mot choquer avec surprendre, peut-être surprendre, c'est un meilleur mot. Il faut toujours arriver, si on me ferme la porte au nez, je passe par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, je passe par le toit. Si le toit est fermé, je passe par le mur. Donc il faut être complètement obstiné et obsessif dans la manière de vouloir percer déjà. Et après ça, avec ça, on peut commencer à surprendre. Jamais être là où on pense qu'on va être. Et justement, toujours surprendre avec ça, avec le timing. Timing est tout dans la vie. Et donc, à mon avis, avec le timing et essayer de surprendre constamment, ça c'est possible. Sur Internet, par exemple, on voit tout le temps tout ce qui va viral complètement sur Internet, parce que tout d'un coup, ça arrive d'une manière différente ou d'une manière qui explose d'une manière différente. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, surprendre, je pense que c'est meilleur maintenant plutôt que choquer.
Parfait. Merci pour cette réponse. C'est génial. Elle était piège. Tu t'en es vachement bien sorti. C'est un filou, ce mec. C'est un filou.
T'es un voyou.
T'es un voyou. Une vieille canaille. Si on...
Pas si vieille.
Non. On a le même âge.
Exactement.
On a 25 ans, tous les deux.
Et de cœur, ma sœur.
Bien sûr.
Mon âme sœur, tu rougis tellement bien.
Bon, ça y est, j'ai honte. Je suis aussi rouge que la nappe. C'est parfait.
Tu vois, j'étais surpris.
Bien sûr.
Exemple de ce qu'on vient de dire.
Mais bien sûr.
De canaille, je te refonds.
Ouais.
Voilà.
Mais je le savais.
Oui.
Je le savais.
Ok, tu as eu la réponse.
Bon, voilà, j'ai perdu tout mon fil.
Parfait, voilà.
Si on avait le droit à un chapitre bonus de Lucas Fox, est-ce que tu aimerais partager un truc avec nous sur ta manière de vivre, ta manière de voir les choses? Est-ce qu'on a le droit à un petit bonus?
Oui, bien sûr. Beaucoup de personnes arrivent à la fin du livre Il m'envoie un texto s'ils me connaissent bien, ou sinon il m'envoie sur Facebook ou Instagram. Lucas, c'est terrible, je suis à la fin, j'en peux plus, tu vas me manquer. Okay, c'est exactement ce que tu me l'as dit. Hein.
Oui.
Mais beaucoup de personnes me disent ça, et je leur dis, mais attends, ils me disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dis, bah, recommence au début. Parce que le livre est très dense, ça m'a pris 6 ans de travail. J'ai commencé ce livre il y a 11 ans. Et donc, tout le long du livre, il y a filigrane. Donc, je voulais pas être prof. J'ai été prof, mais j'avais pas envie d'être prof. Donc, toutes les messages sont des messages, entre guillemets, semi-subliminales, que quand on relit le livre, parce que j'ai relu le livre complet, parce que j'ai réécrit le livre en anglais. J'ai commencé dans la langue de Molière et j'ai fini dans la langue de Shakespeare, en ce sens-là. Et donc, en relisant, je me suis rendu compte, bah tiens, ah oui, ça, ça se lie à ça, ça se relie à ça. Et donc, il y a les clés tout le long du livre que j'ai placées, qui sont souvent en fin de chapitre avec une petite commentaire qui fait, je plante une graine. Un peu ça aux autres d'arroser la graine pour la faire pousser. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu veux, le chapitre bonus est déjà quelque part là, dans le bouquin. Suffit de le lire plusieurs fois et vous allez tomber dans le piège de tout. Ah merde, bon, bien sûr, parce que les salles de spectacle, par exemple, c'est des caractères dans le bouquin. Ma voiture, le fridge, est un caractère dans le bouquin, un caractère à part entière qui joue son rôle. Il y a des bâtiments qui sont des caractères. Le studio à Vienne qui était terrible, magnifique et émotionnel. C'est un caractère dans le bouquin. Donc quelque part, les murs respirent quelque chose. Le marquis avec les murs qui suaient de sueur, qui on peut dire, qui ruisselaient de sueur. Quand j'ai vu Led Zeppelin là, tout le monde va vomir quand je dis ça, avec 500 personnes quoi. Ouh, don't do that. Je vais te mordre. Donc quelque part, les bâtiments Hammersmith Odeon, où j'ai été enfant, j'ai vu les Beatles là quand j'avais 11 ans, en 64, Noël 64. J'ai vu les Stones là en 65. J'ai vu Chuck Berry, j'ai vu tous les bluesmen, j'ai vu Stax, Otis Redding là, tous sur cette scène. Et donc j'étais en public pendant des années, et finalement, moi et Lemmy, on joue là-bas. Donc en descendant les escaliers, c'était super émotionnel parce que j'ai tous les flashbacks des groupes que j'avais vus du public. Même chose avec le Marquis. Marquis, j'avais vu Rod Stewart, Led Zeppelin, Eric Clapton, Mick Taylor avant qu'il rejoigne les Stones, etc. John Mayer, tous ces groupes, j'ai vu avec 400 personnes au Marquis. Donc finalement, je joue au Marquis. Et pendant toutes ces années, j'ai pas vraiment pensé, mais je supposais que derrière, les loges étaient genre somptueuses. Finalement, c'est un couloir complètement détruit. Et le mur entre les loges et la scène, mais c'est quoi? Même pas 3-7 cm d'épaisseur. Donc tu entends toute la foule. Donc les cris de motorette, c'est comme s'ils te criaient dans l'oreille, quoi.
Okay.
C'était étrange. Donc pour moi, quelque part, le chapitre supplémentaire, il est là. Il est déjà là. Je viens de piocher dedans pour reconstruire le chapitre si on part uniquement sur les bâtiments, si on part sur les véhicules, si on part sur les vêtements, les vêtements des années 60, le velours, on parlait du velours côtelé, corduroy, etc. Le velours, les écharpes, les couleurs, c'était pas Publicis à King's Road où Clockwork Orange a été une partie de Clockwork de Orange Mécanique a été filmée par Kubrick, ces lieux donc The Pheasant Tree, The Red Cow et génial pub où on a fait plein de concerts dans plein de groupes différents, encore une fois avec tout le monde qui faisait du pogo et avec des arcades qui s'éclataient parce qu'ils se bousculaient. Tu penses que le mosh pit est dangereux là, t'aurais vu le sang qu'on avait. Et ça giclait de partout, c'est génial. Mais ce qui était génial avec le punk, c'était que un peu comme les gothiques et un peu comme les métalleux aujourd'hui, n'importe quel background, n'importe quelle couleur ou pays, du moment qu'on est dedans, on est accepté. Moi, je suis souvent invité dans les soirées goth à Paris, gothique. Et là, j'ai amené mon fils et bon, il est arrivé avec un genre de casquette rouge et en survêt et tout ça à la rappeur quoi. Et tout le monde a regardé pendant même 15 secondes. Après ça, complète acceptation totale. Et c'est ça qui est génial. C'était quelque part à l'époque qu'il y avait ça et l'expression personnelle de chacun à l'intérieur de ce mouvement, que ce soit gothique, mi-métalleux comme tu es. Et c'est l'expression personnelle. Et c'est ce qui manquait beaucoup, énormément dans les années 80-90, où je venais en France et tout le monde en France disait « Oui, tu vois, je suis super, je suis vraiment individualiste. » Et tu les regardes, ils achètent tous les vêtements exactement au même endroit. Right. Donc quelque part, c'était uniforme, trop régimenté. Ce que j'adore avec ça, c'est l'expression de soi à travers les vêtements, la couleur des cheveux, etc. C'est l'expression. Donc quelque part, le chapitre, il est là. Il suffit de repiocher dans le livre une fois qu'on a lu pour pouvoir voir les histoires. Et après ça, pour moi, il y a toute cette richesse. Après, l'histoire avec un grand H. Pas les petites histoires, pas des anecdotes, mais l'histoire et la continuité que chaque personne à l'époque avait papa, maman qui était à la guerre d'une manière ou d'une autre. Que ça soit dans des usines, parce que toutes les femmes géraient les pays. Le pays, le Royaume-Uni, était tenu debout par les femmes. Parce que les hommes étaient ou sur les bases aériennes, ou quelque part dans le monde, dans l'empire, le plus grand empire que le monde a connu. Donc éparpillés dans le monde ou dans la marine. Donc quelque part, il n'y avait que les femmes qui géraient le pays, les femmes et les vieux. Qui restaient donc les teenagers qui jouaient justement dans tous les sites de bombardement. Et qui piquaient des démons, qui faisaient du marché noir entre eux, etc. Des vrais voyous. Donc, d'où vient beaucoup des groupes des années 50 et le début du rock anglais, qui est super individualiste et pas en compétition avec les uns et les autres, parce qu'il fallait que chaque personne soit différente. Chaque groupe ait un son, chaque groupe a un look, chaque groupe a une manière d'écrire les chansons différente. Tu regardes les Kinks, les Stones, les Who, Them, Pink Fairies, Pretty Things. Tu fais le tour de tous ces groupes-là et des centaines de plus que je peux énumérer, mais ça va prendre trop longtemps. Mais chacun différent. Et c'est ça l'essentiel, quelque part. Si on regarde son pouce. Mon pouce, empreinte digitale, c'est le seul sur 8 milliards qui est comme ça. C'est comme les arbres. Chaque arbre a son propre empreinte digitale. Donc nous sommes tous différents. Acceptons notre différence et soyons fiers et confortables avec nos différences. N'importe quel, que ce soit un sein plus gros que l'autre, une couille plus grosse que l'autre, tout le monde est différent, tout le monde a son caractère et tout le monde doit justement exprimer et devenir quelque part, faire son propre petite œuvre d'art avec soi-même. Et j'en regarde une.
Il est fort, hein? Il est très très fort. Il est très fort. On va essayer de faire vite. Il y a beaucoup de monde qui attend de rencontrer Lucas. Allez, une petite question, just for fun. Lucas, t'es un grand fan d'histoire, et spécialement la Seconde Guerre. Donc, question, ouais, mais surtout, tu aimes bien, le sais, et ça c'est une petite question un peu funny, un peu plaisir pour toi. Si tu transformes un Panzer en machine de tournée, tu remplacerais le moteur par ta batterie, tu brancherais un ampli dans le compartiment et tu mettrais des baguettes géantes sur les chenilles. Est-ce que tu penses que ça irait plus vite qu'un Tiger? Et surtout, est-ce que ça ferait plus de bruit qu'un solo de Motorhead ou juste une odeur très inquiétante de cuir brûlé?
Tout ça, absolument. Les chenilles iraient beaucoup plus vite que Motorhead, qu'un tigre, ou le tigre royal, quoi. Ouais. Et voilà. D'ailleurs, c'est Ferdinand Porsche qui a fait le design du tigre 1 et du panthère, comme Hugo Boss a fait le design des uniformes SS. Et encore une fois, pour revenir sur la question avant, quelque part, toute l'histoire de cette provocation et l'obsession avec le look et pas du tout la doctrine, c'est intéressant parce que le look des ennemis était toujours mieux que les alliés. ce qui est un dicton de Lémy à tout cracher. Les confédérés plutôt que les unionistes, Napoléon avec ses uniformes splendides, magnifiques. Il faut aller au musée de l'armée pour voir les magnifiques uniformes, les hussards et tout ça. Et bien entendu, c'est horrible SS, mais qu'est-ce que c'est que sexy. Vous regardez le portier de nuit avec Charlotte Rampling, vous regardez les dames Ned, et on comprend la puissance de frappe du look. Tout ce qui est Nuremberg, tu regardes Darth Vader, on dit Dark Vader, c'est ça ici, et là-bas c'est Dart. Okay, Dark Vader, okay, regarde la forme de son casque. C'est un casque allemand. Okay, la forme de tous les Stormtroopers qui sont en blanc, mais c'est exactement le même principe que les Stormtroopers nazis. Donc, tout se relie quelque part. Et on n'arrête pas de répéter quelque part les influences. Sans même s'en rendre compte que l'influence de Star Wars, c'était vraiment ce que George Lucas a repris sur tout le symbolique, comme Dame Vivian Westwood, que j'adore. D'ailleurs, l'histoire de Dame Vivian Westwood, elle était, avant d'être anoblie, elle a eu le MBE, donc un médaille pour la mode. Et il y a une magnifique photo, elle est devant Buckingham Palace, le palais de Buckingham. Et donc, le photographe est à genoux devant elle et prend une photo. Elle fait un tourbillon, elle n'a pas de culotte. Ça n'a pas empêché que la reine l'a l'omelie après. J'adore ça. Vivian Westwood, ah, moi aussi, absolument.
Enfin, j'adore.
Elle me manque.
Oui.
Ouais, beaucoup plus que Malcolm McLaren. Ouais. Quel féministe magnifique.
Ça fait presque 40 ans que vous vivez en France. Quel est votre lien finalement, enfin... Qu'est-ce que vous appréciez tant, finalement, en France, pour y être resté aussi longtemps? Alors, vous avez fait carrière, vous avez travaillé pour le Midem, tout ça, vous avez fait plein de trucs, mais et vous avez même travaillé sur Central Park pour le bicentenaire de la Révolution française.
Enfin, ah oui,
c'est incroyable. Enfin, vous...
8000 Américains pour les Français.
Ben oui, et grâce à vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça?
Tout dépend où on met le curseur. Moi, j'aimerais bien mettre le curseur sur... J'avais peut-être 10 ans. Mes premières batteries rudimentaires que j'ai achetées en lavant des voitures dans la rue, à Chiswick, dans le banlieue, on n'avait pas d'argent. Il y avait un couple d'Américains qui sont venus, qui étaient invités par mes parents. Et donc, la Merlock, il est penché sur la porte, comme ça. Il me regarde jouer, taper comme une malade sur ma batterie. Et il me dit, c'est très bien, mon fils, mais... Tu joues très bien, mais tu sais que les roast beef, les Anglais vont jamais pouvoir swinger comme les Américains. Alors, on est en 1962. 63, 64, c'est le British Invasion, où tous les groupes sont arrivés en Amérique, leur apprendre comment faire leur propre musique, recracher à la sauce britannique. Donc, j'ai jamais oublié ça, cette arrogance. Et donc, venu vivre à Paris en 88, beaucoup de personnes me disaient « Oui, mais tu vois, la France, c'est vachement bien pour le vin, mais il n'y a pas pour le rock. » J'ai dit « Ah bon ?» Et Manon Negra, et le Satellite, et Pigalle, et Niagara dans le pop, magnifique, et que ça, sans même parler de Gainsbourg, de Brel, Johnny peut-être moins pour moi, mais j'apprécie Johnny pour sa bête de scène. You know, donc quand même, tu vois, donc énorme. Et en plus, qui était là plus longtemps que la plupart. Jusqu'à sa mort, malheureusement, Laetitia l'a enterré à Saint-Barth. C'était une connerie monumentale. Les pauvres fans ne peuvent pas aller visiter Saint-Barth. C'est trop cher. Et c'est trop loin. Donc c'est con. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que, quelque part, j'ai jamais oublié ça. Donc, quand j'avais la possibilité de faire un truc à New York, c'était par hasard, encore une fois. Mais je ne vais pas spoiler le livre. Mais tout d'un coup, je me retrouve avec l'idée à la con de vouloir envoyer des artistes français à New York pour le 14 juillet 89, pour le bicentenaire de la Révolution française. Ça ne servait à rien que je sois en France, parce que tout le monde et leur grand-mère allaient être employés sur tous les spectacles, etc. Mais ils n'avaient pas besoin de roast beef bilingue, biculturel. Donc voilà, donc j'ai lancé la machine et j'ai pu amener donc tous ces groupes... Cassav, Morricanté, Chef Khaled, Satellite, Pigalle, Manu Negra, Et Jean-Paul Gaultier en maître de cérémonie, magnifique, avec un béret basque sur la tête, une baguette sous le bras, son t-shirt rayé à la breton, et une bouteille de rouquin, de vin rouquin dans la main, à introduire tous les groupes. Magnifique. Et on a fait salle pleine, 8000 places, j'en suis fier. 2 ans plus tard, on a fait le plus grand concert, hormis Jean-Michel Jarre, de l'histoire de la France. 35 000 personnes à Central Park pour voir des groupes français, ou francophones, si on veut. Donc, j'avais pas oublié quelque part cette arrogance. Oui, vous êtes très bien à faire. Et maintenant, on regarde Hellfest, on regarde Gojira, et on n'a pas à rougir. Bien sûr que les Français peuvent rocker. Il suffit de oser et y aller vraiment. Et savoir tordre la belle langue française. Il y avait trop de, on était trop respectueux pour moi. Moi, j'adore la langue de Molière. J'ai écrit dans la langue de Molière et exprès parce que j'adore cette langue. Mais aussi, il faut savoir la tordre, comme on tord une console pour avoir un nouveau son. Il faut savoir tordre la langue. Ben, Verlaine, Baudelaire, ils ont tordu la langue. Et c'est en prenant ces risques-là, qui ose gagne encore une fois. En osant, on trouve une manière d'être différent et donc s'exprimer, pas seulement comme les autres. Et donc, quelque part, ça répond un peu à ta question. Je t'amène dans une souricière à la Alice in Wonderland, je sais, mais ça, c'est moi.
C'est sympa c'est que tu dises « on n'a pas à rougir ». Ça y est, tu...
Ouais, il y a 2 ans...
Tu te considères vraiment comme... prenant part à la scène culturelle française, on peut te revendiquer.
Bah oui. Ah. Mais tu vois mon cul, il n'y a pas de drapeau français en anglais là-dedans. Et avec les histoires de matchs de rugby et tout ça. Mais t'es pour qui, Lucas? Pour les anglais ou les français? Je dis, bah, que le meilleur gagne. Fuck off.
Je vais vous proposer 5 choses et vous choisissez celle que vous voulez. Je vous propose un arbre dont les fruits guérissent les blessures, un instrument de musique dont la mélodie apaise les conflits, un livre dont chaque page révèle un secret oublié, une boussole qui permet de vous guider vers l'espoir, ou une lampe qui éclaire des vérités cachées. Qu'est-ce que vous prendriez ?
Je prends un peu tout. Le bouquin qui révèle vachement bien, la boussole pour l'espoir absolument, et surtout la dernière, parce que Lucas, ça veut dire la lumière, c'est l'apporteur de lumière. Donc j'essaye d'apporter de la lumière et la positivité dans la vie des gens. Si j'ai quelque chose à transmettre, c'est ça. Il faut oser pour gagner. Je vous embrasse tous et merci beaucoup pour l'interview.
Merci.
C'est moi.